Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
29 décembre 2009, Afghanistan, province de la Kapisa, au nord de Kaboul. Le soleil se lève à peine. Et sur une route défoncée, un break Toyota brinque-ballant, la voiture roule en direction d'un village. Et soudain, un homme emmitouflé dans une couverture traverse la route en boitillant. La voiture ralentit pour le laisser passer. Mais voilà que l'homme se redresse et se tourne vers la voiture. Il tient une Kalachnikov. Le chauffeur pile. Deux hommes armés surgissent sur les côtés en hurlant. Ils mettent la voiture en joue. D'autres hommes les rejoignent qui brandissent des armes en vociférant. Et maintenant, ils ouvrent les portières et en sortent trois passagers, des Afghans, qui sont questionnés et fouillés. Dans la voiture, il reste deux hommes, deux Occidentaux, deux Blancs. Et à cet instant, ils sont plus blancs que jamais. Et autour d'eux, les talibans jubilent comme des parieurs qui auraient gagné au loto. Ils poussent des cris de joie, des Français, deux d'un coup. C'est ce qu'on appelle une belle prise, non? Ça vaut cher, deux Français. Et maintenant, ils s'entassent dans la Toyota avec leurs nouveaux prisonniers et ils démarrent en trombe et ils vont parader en klaxonnant dans les rues du village et les villageois sortent leur téléphone et prennent des photos. Il y en a qui crient « Zidane ! Zidane !» parce que c'est tout, au fond, de ce qu'ils connaissent de la France. Et voilà qu'ils arrivent devant une mosquée. On les sort de la voiture, on les emmène devant un mollah qui examine minutieusement leurs papiers. Les deux hommes avaient un interprète, il aide à traduire. Le mollah s'attarde sur les deux cartes de presse. Dessus, il est inscrit le nom de la chaîne de télé, France 3. Vous êtes des espions militaires français ? Ben non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes des journalistes. Non, vous êtes des espions français. L'interrogatoire s'arrête là. La messe est dite. Ce sont des espions. Et les voilà repartis, à pied, les deux blancs et leur interprète, et autour les talibans qui les encadrent. Ils marchent dans la montagne jusqu'à atteindre une maison. La maison d'un chef taliban. Il est en train de faire sa prière et quand il a fini, il s'approche des prisonniers. Et d'un coup, on ne les prend plus pour des espions, mais pour des journalistes qu'ils sont vraiment. Vous êtes journaliste. Vous dites toujours du mal des talibans. Vous ne dites pas la vérité. Vous dites ce que votre gouvernement veut que vous disiez. C'est tout. Et ils repartent à neuf dans une voiture, à fond la caisse sur des chemins défoncés, jusqu'au sommet d'un vallon. Tout le monde descend. Et c'est reparti pour une marche de 4 heures, dans la nuit glacée, jusqu'à atteindre une maison. Mais ça n'est qu'une étape. Le lendemain, nouvelle marche à travers la montagne, une longue marche. Les prisonniers trébuchent à chaque pas. Au bord des précipices, les jambes flageolent, alors que les Afghans sautillent comme des chèvres. Maintenant, on s'arrête pour la prière. Les talibans s'alignent, s'agenouillent et prient. L'un d'eux chante une sourate du Coran. Le soleil se couche sur les montagnes enneigées. Le spectacle est éblouissant. Les prisonniers grelottent de froid. Et c'est reparti, en file indienne, sur des sentiers vertigineux. Et c'est la nuit. Et les deux prisonniers dérapent sur la neige verglacée et s'écorchent les mains en se rattrapant aux parois rocheuses. Ils sont maintenant à plus de 2000 mètres d'altitude, dans un village isolé de tout, un fief taliban. Au cœur du village, le groupe s'engouffre dans une maison. Les combattants s'assoient par terre et on leur sert du thé. Les deux journalistes, eux, sombrent dans un sommeil profond. Ils sont épuisés. 4 heures plus tard, on les réveille et on les jette dans un cachot sordide. quatre murs, un sol en terre battue, un vieux lit défoncé, deux paillasses et trois maigres couvertures. Au plafond, une ampoule faiblarde. Et un froid, à fendre les pierres. Nous sommes le 1er janvier 2010. Il s'appelle Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Ils ont 46 et 47 ans. Bonne année. Un bruit de chaîne et la porte du cachot qui s'ouvre. Un homme entre. Il porte un plat de riz et du pain. Il s'appelle Drana et il a une tête de brute. Il pose le plat au sol et s'accroupit dans un coin. Et il observe les otages qui n'ont pas mangé depuis 24 heures et qui se jettent sur le riz froid. Dans ce cachot, au premier jour de leur captivité, les trois otages ne réagissent pas du tout de la même manière. Reza, l'interprète afghan, il sanglote. Stéphane, le caméraman, il se mure dans le silence. Quant à Hervé, le rédacteur, le chef de l'équipe, il peste, il râle, il est en colère, il dit des putains et des bordels de merde. Lui, à la limite, il s'en fiche. Il en a vu d'autres. Il a fait la guerre de Yougoslavie d'un bout à l'autre. Il a fait le Rwanda et au Cambodge, il a été enlevé par des Khmers rouges et il est rentré en caleçon à fleurs, au sens propre. Mais là, il se sent fautif, il a mis toute son équipe dans la merde. Hervé, il est comme toujours, un cœur d'artichaut dans une tête de mule. Stéphane fait comme il peut pour le rassurer. On n'a pas eu de bol, c'est tout. Tous les deux se ressassent le film de leur capture. Quelques kilomètres avant d'entrer dans ce foutu village, ils se sont arrêtés à un checkpoint. C'est là, c'est sûr qu'on les a balancés. Parce que dans le village, on les attendait. Hervé en est certain. Alors il est décidé de se tenir en forme. Ils feront une demi-heure d'exercice physique tous les jours, mais à tour de rôle, faute d'espace. Et voilà qu'ils dorment, épuisés. Quand soudain, au beau milieu de la nuit, Drana fait irruption dans le cachot et il annonce « Vous allez à la douche !» À la douche, maintenant, en pleine nuit. Il y a des ordres qui ne se discutent pas. Même s'il est 3h du matin, et même si dehors, il gèle, même si dans la bassine qu'on leur tend, la glace a commencé à prendre. Hervé se déshabille et se frotte avec un linge mouillé. Le froid lui transperce le corps. Stéphane se lave à son tour, et il peste parce qu'il a fait tomber une de ses chaussettes dans les latrines. Reza, lui, dit qu'il se lavera plus tard. Quand ils retournent dans leur cachot, ils ont tellement froid qu'ils en ont le souffle coupé. Les repas, c'est pas compliqué. Ça n'est qu'une fois par jour et c'est toujours du riz et du pain et parfois des bouts de fromage. Ils vont rester 6 jours chez Drana. Et après, on les déménage pas très loin chez un certain Le Gol. Son cachot est encore plus froid et plus humide que le précédent. Mais le type est beaucoup plus détendu, au point que Reza arrive à le convaincre de leur faire quelques courses. Car Hervé, malgré la fouille, a réussi à sauver 500 dollars. Et c'est comme ça qu'un jour, Le Gol leur apporte de la nourriture, un réchaud et du gaz. Pour lui-même, il s'est pris des lunettes noires et un blouson. Deux jours plus tard, on les ramène chez Drana pour un interrogatoire. Il y a là un jeune chef taliban enturbanné qui les interroge séparément. Qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi sont-ils en capissa? Peu importe les réponses. À la fin, ils sont traités d'espions. On leur annonce qu'ils vont déménager le soir même. Une longue marche les attend. De nuit, il va falloir s'y faire. À cause des drones américains, tout se fera toujours de nuit. Les déménagements, la toilette, les sorties pour faire pipi, ce sera toujours à la seule clarté de la lune. Ils se déplacent en file indienne et l'ascension est très raide. et bientôt la marche devient de l'escalade. À chaque pas sur la roche glacée, les prisonniers risquent la glissade. Ils ont les jambes tétanisées par le froid et par la peur du vide. Quand ils arrivent enfin dans une maison isolée, ce sont des zombies. Mais pourquoi se plaindre? Ils sont vivants et ils ne sont pas blessés. Depuis que l'armée française est en Afghanistan, c'est-à-dire depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, c'est une tradition. Le ministre de la Défense vient passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec ses soldats. Et cette année, c'est Hervé Morin qui s'y colle. Il vient d'atterrir à Kaboul quand les policiers afghans lui apprennent la nouvelle. Et on lui montre les images de l'enlèvement filmées par un drone américain. Il aurait pu avoir de la compassion. Il aurait dû avoir de la compassion. Mais devant une caméra de France Télévisions qui l'accompagne, il préfère faire le mariole. Vos petits camarades ont voulu approcher les talibans. Eh ben maintenant, ils vont les voir de près pendant un bout de temps. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Le ministre ment. Les reporters de France 3 n'ont absolument pas voulu approcher les talibans, comme ils le laissent entendre. Au moment de leur enlèvement, ils venaient de passer 2 semaines sous protection de l'armée française à filmer notamment la construction d'une route dans la vallée de la Capissa. 60 km d'asphalte censés faciliter le trafic de l'OTAN. Un chantier protégé par l'armée française. Il leur restait 1 semaine de tournage. Et pour compléter leur témoignage, ils voulaient rencontrer les habitants de la région et recueillir leurs réactions. Le béaba du journalisme. Et ça, forcément, ils ne pouvaient pas le faire avec les militaires. Mais ils n'avaient aucun projet de rencontrer les talibans. Aucun. Et pourtant, les militaires ont transmis à Paris un rapport qui les accable. Ce sont des journalistes indisciplinés qui ont refusé l'encadrement des officiers. Ils se sont aventurés dans une zone où on leur avait dit de ne pas aller. Et c'est pas fini. À Paris, le général Jean-Louis Georgelin, chef d'état-major des armées, se plaint d'avoir dépensé plus de 10 millions d'euros pour tenter de localiser les otages. Et maintenant, Nicolas Sarkozy embraye et parle d'une imprudence vraiment coupable. Il dit même « Nous réglerons nos comptes avec eux quand ils sortiront ». Jamais les autorités françaises ne se sont montrées aussi indignes avec des Français qui, au moment même où ils parlent, croupissent dans un cachot dans les montagnes afghanes. Jamais. Et pendant 3 mois, sous prétexte que la médiatisation fait monter les enchères, il est décidé de garder le secret, le nom des 2 journalistes. Dans les médias, ils n'ont qu'un prénom, Hervé et Stéphane, et pas de photo, comme des candidats de télé-réalité. Jusqu'à ce qu'au bout de 3 mois, quelques-uns d'entre nous brisent le silence et décident de donner un nom et un visage aux 2 otages, Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier. Les autorités sont obligées d'en finir avec l'anonymat.
Cela fait 105 jours qu'ils sont otages des talibans. Il s'agit de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquière, 2 journalistes aguerris de 46 et 47 ans. France Télévisions a diffusé des extraits de leur dernière vidéo. C'est un changement de stratégie, choisi et assumé parce que leur vie est en danger. Pour Europe 1, Laure d'Autriche.
C'est une vidéo de 2 minutes où les otages apparaissent amaigris et barbus, mais en bonne santé. Ils lisent un texte aux autorités françaises.
Cela fait maintenant 3 mois que nous sommes otages et les talibans me demandent de vous envoyer ce message. Ils demandent à ce que toutes leurs exigences soient satisfaites, ce qui n'a pas été le cas selon eux lorsqu'ils vous ont donné leurs exigences.
Avec la diffusion de cette vidéo et la révélation de l'identité des 2 otages, explique Michel Anglade, journaliste à France 3, c'est la fin de la stratégie du silence.
J'imagine mal que France Télévisions aurait pu prendre le risque de ne rien diffuser du tout dans cette vidéo. Ils étaient menacés et la demande des ravisseurs était que les images soient diffusées. L'identité a été levée, ça marque quelque chose de nouveau. Je trouve qu'en quelque sorte, ils existent. C'est tout simplement aussi faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans l'oubli, dans la routine des affaires d'État.
À partir du mois de juillet, presque 200 jours après leur enlèvement, les noms, les photos, le décompte des jours de détention seront diffusés chaque jeudi au journal de 20h. Ça fait 6 semaines que les journalistes et leurs interprètes n'ont pas changé de planque. 6 semaines qu'ils s'entassent à 3 dans ce cachot minuscule et sans lumière. Et puis soudain, c'est la panique. Les talibans pensent qu'ils ont été repérés et ils décident de les séparer. Terrible décision. Parce que non seulement ils séparent Hervé de Stéphane, et Dieu sait si tous les deux se soutiennent moralement, mais en plus, ils séparent les deux Français de Reza, leur interprète. Jusque-là, c'est grâce à lui qu'ils arrivaient à négocier de ci, de là, avec les geôliers. Alors quand ils apprennent la nouvelle, Hervé et Stéphane demandent à Reza de leur écrire en urgence un petit lexique, une 50aine de mots français traduits en afghan pour communiquer avec leur futur gardien. Et le 13 avril, ils sont séparés. Et c'est reparti pour une longue marche en montagne. Mais cette fois, c'est plus pareil. Plus personne à qui parler, plus personne pour vous soutenir le moral, plus de copains pour vous tendre la main quand vous trébuchez. Et à l'arrivée, Hervé Guéquière se retrouve dans un cachot de 4 mètres carrés, éclairé par une ampoule blafarde. Le sol est défoncé et les pierres ne sont pas scellées. Le vent s'engouffre à travers les murs. Heureusement, Hervé a une radio. Ça fait 3 mois et demi qu'il est otage. C'est tout ce qui le relie au monde. La BBC en ondes courtes. De toute façon, c'est la seule radio qu'il reçoit. 1 heure d'information au réveil, 1 heure vers midi, les émissions de divertissement de l'après-midi et un long journal le soir. Ces voix venues de Londres viennent illuminer ses journées. C'est le miracle de la radio. Le reste du temps, Hervé écrit son journal. Son abruti de geôlier a consenti à lui donner un stylo et des cahiers de l'UNICEF, ce qu'on donne en général aux écoliers afghans. Ce geôlier, Hervé l'a baptisé Thénardier. Il refuse toute communication, une tête et un cœur de pierre. Et il ne lâche jamais sa kalachnikov, et il est toujours accompagné d'un grand chien furieux. Pour s'entretenir, Hervé fait des pompes, des abdos, des flexions. Enfermé dans 4 mètres carrés, c'est une question de survie. Parce qu'à part ça, il ne sort que 2 fois par jour. Et à cause de cette fichue peur des drones américains, ça n'est jamais le jour, jamais au soleil, toujours la nuit. Un jour, Hervé reçoit la visite surprise de Drana, son premier geôlier. Rien à voir avec Thénardier. Il lui apprend que les négociations avec la France ont échoué. À partir de ce moment-là, il n'a plus qu'une seule obsession. S'évader. Il se met en tête de déceler les barreaux de sa petite fenêtre en grattant tous les jours un peu avec un vieux clou rouillé. Le soir surtout, ça lui prend comme une fièvre. S'enfuir. Et le matin au réveil, il se dit que c'est insensé. Mais ce qui le rend fou désormais, c'est la faim. Au point qu'un jour, il s'en prend à son geôlier. Une scène qu'il raconte dans le livre qu'il a écrit après sa libération. Mes yeux transpirent la haine. Je vois déjà ce fumier traversé par un pieu, pisser le sang. Je me roule dans cette fange, dans cette violence hystérique. Je l'imagine crever sous mes yeux. Jamais je n'ai vécu un tel état d'apocalypse mentale. Mon cerveau explose dans une furie contenue depuis trop longtemps, quand soudain, dans un éclair de lucidité, je réalise que je vais commettre l'irréparable. Le vieux et moi, dans un mouvement désespéré, nous nous repoussons mutuellement comme pour conjurer les mauvais esprits. Il m'insulte de tous les noms, il claque la porte et j'entends le lourd cadenas se refermer. L'ouragan est passé. Il me laisse anéanti. Hervé ne tient que dans l'espoir d'une libération. 11 décembre. Après presque 1 an de captivité, le geôlier vient voir Hervé pour lui annoncer une grande nouvelle. Les négociations avec la France ont abouti. Et c'est une scène étonnante, parce que l'Afghan a l'air presque aussi content que le Français. Et en vue de la libération, il faut une fois de plus déménager. Or, ça fait 6 mois qu'Hervé n'a pas vraiment marché. Ses cuisses ressemblent à des mollets, et ses mollets à pas grand-chose. C'est donc une voiture qui l'emmène vers un nouveau village à 1 heure de route. Et le lendemain, surprise, voilà les autres qui débarquent, Stéphane et Reza. Ils sont à nouveau réunis. Hervé raconte ses retrouvailles dans son livre. Dans l'excitation des retrouvailles, nous mélangeons tous les sujets. Nous passons du français à l'anglais et même au Dari avec nos deux gardiens. Les angoisses, la chaleur, le froid, la mauvaise nourriture, mais aussi la radio, les exercices physiques, les maigres informations à propos des négociations. Tout y passe dans le désordre. Nous rions. Reza pleure à nouveau, mais il me prend la main. Je ne retrouve pas des compagnons, pas des amis, mais des frères de souffrance. Et les voilà donc à nouveau ensemble dans leur nouveau cachot, plus grand et plus propre que tous les précédents. Et puis nouveau déménagement et toujours pas de libération. Leur nouvel hôte se fait appeler Commandant Mounir. Et c'est un ventru. Le premier depuis le début, tous les autres étaient maigres comme des clous. C'est qu'il adore manger, le commandant Mounir. Et il est partageur. Les 3 otages se refont avec lui. Une santé. Mais ça ne dure pas. Encore un déménagement. Et le nouveau gardien, s'il n'est pas gros, est bavard. Il prétend leur donner toutes les infos sur les négociations en cours. Mais en vérité, il mélange mensonge et vérité. Les otages comprennent malgré tout que les talibans réclament 4 millions de dollars pour les libérer, mais qu'un intermédiaire véreux en demande 10 aux Français et que lui entend se garder 6 millions. Zared, l'homme qui les détient désormais, est finalement assez sympathique et attentif. Et toujours dans son livre, Hervé raconte une scène très drôle lorsqu'il découvre ce que son geôlier regarde en permanence sur son téléphone portable. Lorsqu'ils vont au marché, en général 2 fois par semaine, ils achètent des extraits de vidéos pour 1 ou 2 dollars pièce et les chargent grâce au système Bluetooth sur leur téléphone. Il s'agit le plus souvent de clips de danse plus ou moins orientales dans lesquels les filles court vêtues bougent lascivement. Rien de pornographique certes, mais un brin érotique. Les talibans ne se lassent pas de regarder ce genre de spectacle kitsch sur leurs petits écrans. Et je ne peux évidemment pas m'empêcher de leur faire remarquer que ça n'est pas une pratique très islamique. Alors avec un grand sourire désarmant, ils me passent leur portable. Pendant ce temps, les négociations s'accélèrent. Aux dernières nouvelles, les talibans se contenteraient de 4 millions de dollars pour libérer leurs otages. On les déménage encore. Et avant de partir, on les fouille. Et on confisque à Hervé les 250 pages de son journal de bord. Il s'en fiche. De toute façon, il a tout dans la tête. Il les réécrira. Nouvelle marche forcée dans la montagne. La plus dure de toutes. Mais il ne faut pas mollir, ils ont rendez-vous avec une voiture à 3h30 du matin, de l'autre côté du col. Alors il faut puiser dans ses dernières réserves. Ça y est, la voiture est là, et bientôt les voilà dans une jolie maison. En revanche, les 2 talibans qui les reçoivent ont des têtes de tueurs. Pendant le déjeuner, l'un d'eux est pendu au téléphone, on dirait qu'il règle les derniers détails. Et puis il leur dit... Vous allez vous laver, chacun à votre tour, et puis vous mettrez ces habits blancs tout neufs qu'on a achetés pour vous. La tenue traditionnelle des talibans, on les fait beaux avant de les rendre. Hervé écrit. Après une bonne douche, nous nous habillons rapidement. Dans cette tenue immaculée, Stéphane, Reza et moi ressemblons à des communiants un peu ridicule, sortant de la messe. Nos gardiens nous convient désormais à une séance vidéo surréaliste à destination de leur chef. Face à la caméra, il faut donner notre sentiment sur la captivité que nous venons de vivre. Décidément, nos ravisseurs sont imprévisibles. Est-ce du cynisme, de l'humour afghan, de la bêtise ou un sens de l'hospitalité très particulier? Nous enregistrons donc un discours convenu, très langue de bois. Il ne faudrait pas tout gâcher, à la dernière minute, par un excès de franchise. Et maintenant, une voiture les emmène hors de la ville. Et un taliban leur tend une lettre. Elle est à l'en-tête de France 3. Ils reconnaissent tout de suite le sigle bleu. Et dessus, il est écrit à la main. Hervé, Stéphane, ayez confiance. Suivez-les. Et enfin, les trois hommes sont conduits devant la base militaire française de Tagab. 3 minutes d'attente devant la base. Et 2 4x4 blindés remplis de membres des services secrets français qui se dirigent vers eux. Hervé, Stéphane et Reza se jettent dans les bras les uns des autres. Ils sont vivants, ils sont libres. 3 jours plus tard, ils sont de retour à Paris.
Tout au long de cette journée, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont littéralement restés soudés l'un à l'autre. Les images que l'on retient de leurs premières heures de liberté, ce sont celles de deux hommes qui se tiennent par les épaules, qui marchent côte à côte, qui se réajustent leurs vestes l'un l'autre. Ce que l'on va retenir aussi, c'est leur extraordinaire sérénité, lucidité qui ne sera peut-être que temporaire. L'atterrissage, disent les ex-otages, n'est jamais simple. Il est 13h45 quand ils entrent dans le hall de France Télévisions. Les deux ex-otages découvrent ébahis plusieurs centaines de personnes qui les attendent. Leurs amis apparaissent de partout, au balcon des étages. Ils reconnaissent des visages et ils profitent du moment.
Je vais faire très court, je voulais simplement vous dire merci. Je suis submergé d'émotions, je ne sais pas quoi vous dire à part merci. Du fond du cœur, sincèrement, merci.
Pour écrire ce récit, je me suis largement appuyé sur le livre d'Hervé Guéquière, 547 jours, que vous trouverez aujourd'hui au livre de poche.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.